Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque matin. Nous sommes le jeudi 9 juillet. Écoutez. Tous derrière l'équipe de France, mais France-Maroc, ce sera ce soir 22h, quart de finale de la Coupe du Monde. Et ça y est, les choses très très sérieuses démarrent. Dans 10 minutes, notre consultant RMC, Eric Dimeco, sera en direct avec nous. Il va nous dire quelles recettes appliquer pour tenter de battre les Marocains, comme il y a 4 ans d'ailleurs. Et je vous attends bien sûr au 32-16 pour nous dire ce que vous attendez de ce match et qui vous allez soutenir d'ailleurs. À 7h40, je reçois le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Il viendra dévoiler en exclusivité sur RMC les chiffres du concours d'enseignants 2026. Y aura-t-il un professeur devant chaque élève à la rentrée? Est-ce que le métier de prof d'ailleurs fait encore rêver? Vous êtes professeur, vous êtes parent, venez interpeller le ministre de l'Éducation. Bac 2026, canicule et effectivement présence des profs. Il répondra à vos questions en direct sur RMC. Ça passe par le 32-16 et vos messages sur le WhatsApp 06 12 424 424. À 8h30, mon invité politique à 8h30, donc ce sera le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Début de campagne agitée pour Marine Le Pen hier dans la Sarthe. Est-ce qu'il faut d'ailleurs laisser Marine Le Pen faire campagne ou au contraire militer contre sur le terrain? N'hésitez pas à réagir. Olivier Faure qui répondra aussi à la question: qui pour représenter le Parti Socialiste en 2027? Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h, passé de 1 minute.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est des choses sérieuses qui commencent pour les Bleus opposés ce soir au Maroc. Quart de finale de la Coupe du Monde à vivre sur RMC. Nous irons à Boston dès le début de ce journal. Le retour inquiet des habitants chez eux dans les Pyrénées-Orientales alors que le feu n'est toujours pas fixé ce matin, et la crainte du retour de bâton dans les rangs du Rassemblement National après l'annonce de la candidature de Marine Le Pen et un premier déplacement compliqué hier.
Les Bleus en quête d'une place dans le dernier carré.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et pour rejoindre les demi-finales, il faudra battre le Maroc. Premier choc de ces quarts de finale au Mondial à Boston, où l'on retrouve Jean-Louis Tour ce matin en direct pour RMC. Des Bleus qui ont connu une soirée quelque peu agitée, Jean-Louis.
Oui, le programme des Bleus a connu une petite contrariété, vous allez l'entendre derrière moi, la difficulté pour trouver le sommeil, parce qu'il est 1h du matin pour nous à Boston, et problème, il y a quelques minutes encore, feu d'artifice, concert de tambours, de klaxons, tout ça autour de l'hôtel des Bleus, orchestré par des supporters marocains. Alors le service de sécurité des Bleus a dû intervenir pour établir le calme. Pas idéal comme préparation pour un quart de finale de Coupe du Monde. Match que devrait débuter Désiré Doué aux côtés du trio Mbappé, Dembélé, Olise. C'est la nouveauté du 11 de départ par rapport au Paraguay. Bradley Barcola devrait lui être remplaçant, tout comme Aurélien Tchouaméni. Un seul entraînement dans les jambes avec sa douleur aux adducteurs, insuffisant a priori donc pour être titulaire.
Et il y aura un point à surveiller, Jean-Louis, lors de cette rencontre, c'est la gestion des cartons jaunes.
Oui, notamment pour Michael Olise, il devra faire attention à ne pas prendre un nouvel avertissement, parce que si c'est le cas, il sera privé d'une éventuelle demi-finale, parce que la demande d'annulation de la France de l'avertissement reçu contre le Paraguay a été repoussée. Les Bleus qui devraient quitter leur hôtel vers 19h, heure française, pour la petite heure de route sous escorte policière qui les mènera au Gillette Stadium de Foxborough dans la banlieue de Boston.
Jean-Louis Tour, qu'on retrouvera au commentaire de cette rencontre France-Maroc, ce sera à 22h sur RMC, un match sous très haute sécurité ici en France avec 20 000 policiers et gendarmes mobilisés sur l'ensemble du territoire selon le Figaro. Pierre Bazin, les autorités redoutent des débordements et des troubles à l'ordre public.
Oui, c'est ce que précise une note confidentielle rédigée par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme que RMC a pu consulter. Les policiers rappellent dans ce document que lors de la victoire de la France en demi-finale de la dernière Coupe du Monde face au Maroc, de nombreux troubles à l'ordre public s'étaient produits, avec d'importantes rixes, des incendies, des dégradations notamment, qui avaient débouché sur une centaine d'interpellations. Pour ce soir, les autorités anticipent un scénario similaire avec de potentiels débordements, des affrontements entre supporters et des envahissements de certains axes routiers. À Paris, là où de nombreuses festivités sont concentrées, la préfecture de police a annoncé un dispositif renforcé avec plus de 2000 policiers mobilisés. Plusieurs secteurs de la capitale seront d'ailleurs piétonnisés.
Et notez également que la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique dans l'Hérault, mais aussi à Toulouse. Il n'y aura pas de tram ni de bus également dans certains secteurs de Bordeaux. 17 800 hectares partis en fumée depuis 8 jours. C'est presque deux fois plus que l'ensemble, sur l'ensemble du mois de juillet l'an dernier. Des incendies toujours en cours ce matin dans la Drôme, mais aussi les Pyrénées-Orientales où les flammes ne sont pas fixées, attisées par le retour du vent. Et si de nombreux habitants concernés par les ordres d'évacuation le restent, certains ont pu retrouver leur domicile hier, la peur au ventre. Reportage de notre envoyé spécial à Tarerac, Rachel Sadodine.
Au volant de sa fourgonnette, Jean-Louis, l'ancien maire, parcourt les vignes brûlées en contrebas du village, quand soudain...
De nouveau, on a une reprise de feu. On était, pensait-on, complètement sauvés des flammes, et apparemment, ce n'est pas encore bien le cas. On se dit quand c'est qu'on sera à l'abri.
Le retour des flammes, et avec elle, un épais nuage de fumée noire s'approche des maisons.
Vous le voyez là, il n'est pas loin, hein. Et avec ce vent, ça va vite. Hein.
Inquiète, Flore Bella venait tout juste de défaire sa valise, mais elle pense déjà à tout remballer.
Tout est noir, tout est brûlé, ça ressemble à rien. C'est désolant. Et on ne sait pas quand c'est que ça va s'arrêter. Je ne suis pas en sécurité, je ne me sens pas bien. J'ai le cœur qui accélère très fort et je ne suis pas bien.
Vous avez envie de repartir ?
Oui, et je vais repartir. Parce que imaginez que ça reprend pas par là, là on est foutu là.
Elle va donc rejoindre sa famille à Toulouse, mais ici à Tarerac, d'autres comptent bien rester en priant pour que le vent ne tourne pas en direction du village.
Retour à la maison aussi pour ces habitants du Cher évacués hier après un départ de feu à proximité d'une usine. Céveso, le risque est écarté ce matin. Les feux, conséquences entre autres de la chaleur après un mois de juin record en Europe selon Copernicus. Ce mois de juillet s'annonce particulièrement chaud. On a encore battu des records absolus. Hier, 41 degrés du côté de Sète, 40,5 degrés à Marseille ou encore Béziers. Il y aura 72 départements en vigilance orange canicule à la mi-journée. Et comme lors des vagues précédentes, des perturbations sont à prévoir sur les rails avec la suppression d'inter des trains sur les lignes reliant Paris à Clermont et Toulouse, mais aussi entre Marseille et Bordeaux. Il est 7h06, vous écoutez RMC. Début de campagne agitée pour Marine Le Pen, chahutée hier dans la Sarthe pour son premier déplacement, écourté, accueilli par une manifestation d'opposants au lendemain de sa condamnation pour détournement de fonds européens, candidature désapprouvée par 6 Français sur 10 selon un sondage. Et là pour BFM TV, et un risque, celui de voir l'exécution de sa peine au port d'un bracelet électronique appliqué à quelques jours du premier tour. La Cour de cassation se prononcera au plus tard début avril 2027. Le sujet a d'ailleurs été évoqué hier soir, Sébastien Krebs, lors d'un conseil du parti.
Oui, Marine Le Pen commence sa campagne avec un gros caillou dans la chaussure, même si hier soir, face au cadre et élu du parti, le binôme a resserré les rangs. Nous formons un ticket gagnant, a lancé Marine Le Pen quand Jordan Bardella a voulu rassurer, l'épisode judiciaire est derrière nous. Mais on voit bien que la stratégie du RN pourrait être mise à mal par le calendrier de la Cour de cassation. Une décision au plus tard début avril avec la menace d'un bracelet électronique avant le premier tour. Son entourage refuse de croire en ce scénario. À 99%, ça n'arrivera pas. Balaye un cadre, tout a été pesé avec les avocats et on comprend que tout sera fait pour étirer les délais de la procédure. Restera malgré tout cette épée de Damoclès plus les risques de manifestation. Cela n'intéresse pas les Français, se persuade un dirigeant du RN. Nos opposants perdront leur temps, ajoute un autre.
Et dans le même temps, les militants socialistes sont eux invités à déterminer jeudi la stratégie du parti pour la présidentielle, à savoir la méthode pour choisir leur candidat.
Et c'est le premier secrétaire du Parti socialiste qui sera donc mon invité à 8h30, Olivier Faure. Et d'ailleurs, s'il est désavoué par ce vote des militants, est-ce qu'il sera toujours premier secrétaire ce soir ? Je pose la question, vous pouvez compter sur moi, ce sera à 8h30.
Autre rendez-vous, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, votre invité, Apolline, à 7h40. Il viendra notamment nous donner les résultats des concours du primaire et du secondaire sur l'ensemble du pays en 2026 pour les enseignants, avec une hausse des candidats retenus par rapport à l'an dernier. 90 cibles militaires iraniennes frappées cette nuit par les États-Unis. La tension ne retombe pas ce matin au Moyen-Orient. L'Iran a répliqué par de nouveaux tirs sur Bahreïn et au Koweït quelques heures après les mots de Donald Trump qui a menacé de frapper encore plus fort.
La route du Tour prend de la hauteur.
Après une étape réglée au sprint hier par le coureur Décathlon CMA CGM Olaf Koy, place à la montagne, 186 km entre Pau et Gavarnie. Au programme, un enchaînement mythique des cols d'Aspin et du Tourmalet qui devrait plaire, Romain Asselin, aux coureurs français.
Parmi les bleus attendus dans l'échappée, Lenny Martinez, passé en tête du Tourmalet l'an passé. Un col que veut aussi dompter Valentin Paré-Peintre, dernier français vainqueur d'une étape de montagne sur le Tour, c'était au Ventoux.
C'est le col le plus mythique, je pense, des Pyrénées. Et l'an passé, c'était une étape où j'étais aussi à l'avant et où j'avais des très bonnes sensations. Donc j'espère qu'il me réussira aussi cette année.
L'actuel maillot à poids, Alex Baudin, espère bien fendre la foule en premier dans le Tourmalet.
Il va y avoir de l'ambiance, j'en aurai besoin, je pense, ça va m'aider à pousser un peu plus fort sur les pédales.
Mais le français, c'est aussi que Tadej Pogacar Pogacar reste le maître du jeu pour la victoire d'étape.
Ça dépend, Poggi, son humeur. Peut-être qu'il aura envie de remettre tout le monde d'accord et reprendre le maillot. Ça dépend pas de moi.
Un maillot jaune que convoite Paul Sexas, dixième du général, son directeur sportif Julien Jurdi.
On est prêt pour affronter le Tourmalet, l'événement clé de cette première semaine. Se fait pas de doute que Vingegaard et Poggi vont vouloir tester Paul, parce que ça reste un adversaire qui fait malgré tout peur à ces deux garçons. Si on arrive à basculer avec ces deux garçons en haut du Tourmalet, la suite risque d'être plus favorable pour nous.
Avec une arrivée en montée, où c'est que ça serait une carte à jouer.
La sixième étape du Tour de France à vivre dans l'intégrale Tour cet après-midi sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 et comme vous le savez, tous les jours cette semaine, on vous offre vos vacances. Avant-dernier jour, pour gagner vos vacances à la mer ou à la montagne, vous remportez un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations les plus beaux endroits de France et Bellambra s'occupera des enfants, des activités et des repas. C'est le tout compris premium. Alors pour gagner ces vacances, vous envoyez tout de suite vacances au 732-16. Vacances au 732-16. Bonne chance à tous, 7h10.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Les Bleus pour une place en demi. France-Maroc, c'est ce soir, 22h. Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour.
Ancien international français, consultant RMC, notre fil rouge Coupe du Monde. Attention aux Marocains, ils sont meilleurs qu'il y a 4 ans. Voilà votre parti pris. Les Bleus sont face à leur premier vrai défi. Vous nous le dites dans un instant. Et puis vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16. Dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes au matin de ce match. Il est 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Écoutez.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
On y est déjà, mais ce soir c'est le Maroc qui est sur la route des Bleus, quart de finale de la Coupe du Monde, 22h à Boston. Bonjour Eric Dimeco. Vous êtes notre fil rouge pendant ce mondial. Les Bleus sont face à leur premier vrai défi, c'est ça que vous nous dites ce matin?
Bah oui, c'est un match de très haut niveau. C'est une équipe qui est devenue une des meilleures équipes mondiales, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, finaliste voire vainqueur puisqu'on le sait toujours pas de la CAN. Donc c'est un vrai défi, un nouveau défi pour l'équipe de France, oui.
Ça se joue sur quoi ce soir?
Oh, alors on a l'habitude de dire que ça peut se jouer sur l'expérience dans ce genre de match. On va dire que du côté français, on a un peu plus de joueurs qui ont l'habitude de jouer ces matchs-là. Ça va se jouer aussi sur le talent et sur l'envie. Je crois que les deux équipes sont devenues très très proches maintenant. Je vous ai entendu dire que le Maroc avait progressé depuis la dernière Coupe du Monde. C'est vrai, mais je trouve que l'équipe de France aussi, offensivement, on est devenu très très fort, presque injouable.
Presque injouable, c'est-à-dire qu'on fait peur. Est-ce que ils sont dans quel état d'esprit les Marocains? Ils ont peur des Bleus?
Oh non, je pense pas, puisque ils nous connaissent par cœur. Je l'ai dit tout à l'heure, ils sont devenus. Une équipe qui est embêtante à jouer, et quand on est quart de finaliste, on rêve à un éventuel titre, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'équipe de France. Par contre, être méfiant, oui.
Oui, être méfiant, il faut l'être, nous le sommes aussi d'ailleurs. Vous disiez Eric, très proche en termes de niveau, très proche aussi en termes d'amitié, on pense évidemment au fait qu'il va y avoir ce soir un face-à-face entre Hakimi et Mbappé. Ça marche comment ça, quand on se retrouve sur le terrain, qu'on est adversaire sur le terrain et très proche dans la vie?
Oh, ça pose pas du tout de problème. C'est généralement quand on rentre sur le terrain, surtout pour ce genre de match, on laisse l'amitié de côté. Hakimi l'a dit, hein, sur le terrain c'est plus mon ami. Je pense qu'Mbappé, s'il peut faire des misères à son pote, il le fera bien volontiers. Non, ça joue pas sur ce genre de match, pas du tout.
Mathieu,
cette nuit, parce qu'il est 1h15 du matin sur la côte est américaine, on a vu des supporters marocains faire du bruit au pied de l'hôtel des Bleus,
taper des casseroles
pour les empêcher de dormir. Eric, qu'est-ce que tu l'as vécu ça déjà? Est-ce que ça a le moindre impact?
Non. Ben, quand tu vas jouer en Grèce ou en Turquie, j'ai connu ça. Ça peut durer toute la nuit, ça peut faire beaucoup de bruit. Oh, les hôtels quand même de haut niveau sont bien sonorisés normalement.
Faut avoir des bonnes boules
qui sont. Même pas. Non.
Michael Olise, l'un des meilleurs Français, sous la menace d'une suspension en cas de nouveau carton jaune. Ça, est-ce que c'est un danger?
Ah oui, il y a toujours le danger de prendre un carton jaune bête, mais
bon, après il suffit que Emmanuel Macron passe un petit coup de fil au patron de la FIFA.
Ouais,
hein,
Oui, mais non, normalement ça marche pas comme ça, mais voilà, en le faisant un coup, on pense que ça marche à tous les coups. Non, moi je serais plus inquiet si c'était Saliba ou Pamecano, voire Rabiot Koné au milieu de terrain qui est sous le coup d'une suspension. Olise, c'est un joueur offensif, c'est un joueur qui lui prend des coups normalement. Voilà, donc le carton jaune qu'il prend, il est inexistant, il n'a pas de raison de prendre de carton ce soir. Je ne suis pas inquiet plus que ça.
Un million et demi de Marocains en France et quelques binationaux d'ailleurs dans l'équipe marocaine qui ont aussi la nationalité française. Ça change quelque chose à l'ambiance d'un match?
Ah, c'est vrai que c'est un match particulier. Déjà, on connaît bien cette équipe, on l'a déjà dit, et puis surtout, oui, quand il y a beaucoup de binationaux, quand il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent, qui ont même été pour certains formés ensemble, ça peut poser, enfin pas poser un problème, mais ça peut revêtir du match un peu particulier. Après, franchement, les garçons, quand ils sont sur le terrain sur une quart de finale de Coupe du Monde, ils pensent pas à tout ça. On n'a pas tout ça dans la tête. Alors oui, nous, on va le vivre parce que ça va vibrer dans le pays, mais c'est tout.
Eric, dans la tête des Bleus, il y a eu beaucoup de choses quand même ces derniers temps. Il y a ces discussions et ces polémiques sur l'arbitrage et notamment Paraguay-France. Il y a tout un tas de choses qui peuvent exister aussi autour des attaques racistes vis-à-vis de Kylian Mbappé. Comment on doit faire Didier Deschamps pour leur rappeler que l'adversaire, c'est ni l'arbitre, ni les racistes, mais le Maroc?
Oh, il a déjà commencé, Didier, et on peut noter qu'il avait été parfait dans la préparation du match contre le Paraguay. Je doute pas qu'il sera parfait encore une fois, parce que justement, il doit focaliser son équipe sur le match et ne pas se faire parasiter par tout ce qu'il y a autour, et notamment tous ces polémiques que je trouve ridicule, hein, sur l'arbitrage ou le fait que les matchs soient truqués ou que la Coupe du Monde soit truquée.
C'est presque du complotisme. On a quand même l'impression que désormais la Coupe du Monde, cette fois-ci en tout cas, elle est vraiment attrapée par une forme de complotisme, d'idée que tout serait truqué. Après, effectivement, l'attitude de Trump a pas aidé, hein.
Oui, non, mais après, quand tu fais une erreur, tu as la prise à la critique, ça c'est sûr. Mais bon, c'est un peu l'histoire du monde aujourd'hui. Il y a des complotistes, on pense que tout est arrangé dans tous les milieux, et le foot peut pas échapper à ça, puisque c'est le sport populaire numéro un. Voilà, mais là, ça devient ridicule. Il faut que ceux qui connaissent ce sport ou qui l'aiment, dégonflent un peu ces polémiques, parce que c'est complètement ridicule.
Mais ces polémiques, ridicules, les 5 arbitres argentins, Eric, c'est anecdotique?
Ah ouais, complet.
Complet.
Ben oui, on a bien vu, il y a eu polémique sur Monsieur Le Texier du côté des Argentins, et c'est eux qui sont passés, et on a presque dit, alors que pour moi il a été bon, on a presque dit qu'il avait avantagé les Argentins. Alors comment on fait alors? Je ne comprends plus rien moi, du coup.
J'adore. Eric, vous êtes, c'est un plaisir. Bon, d'habitude je vous le demande, mais je sais bien qu'à chaque fois ça vous fait un peu, vous êtes un peu superstitieux, vous n'aimez pas les pronos, mais vous en avez un quand même ou pas?
Ah, je pense que ce sera une petite victoire de l'équipe de France avec les deux équipes qui marquent. Victoire, je veux dire peu d'écart, donc 2-1, un truc comme ça, quoi.
2-1, ça. Ben, vous savez quoi, on débriefe demain, de toute façon, ensemble.
Ouais, ben oui, sinon je vais pas, du coup. Hein.
Allez, Eric Dimeco, ancien international français et consultant RMC. Le match, il est à suivre évidemment sur RMC. France-Maroc, 22h. En direct et en intégralité, avant-match sur RMC dès 18h et after-foot jusqu'à 2h du matin. Il est 7h21 et c'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, l'historien d'Apolline Matin, un film sur le plus génial des acteurs français est en préparation.
But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas.
Oui, Louis de Funès, hein, c'est l'acteur français qui a longtemps dominé le box-office. Plus de 100 de ses films ont dépassé le million d'entrées. C'est hors norme.
Vous nous le dites dans quelques secondes. Il est 7h21 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23. Quand l'histoire éclaire notre actualité avec vous, Arthur Chevalier. Louis de Funès est de retour à l'écran.
Je t'aurai, Fantomas. Je t'aurai.
Quel kiff. Un biopic sur le génial comédien est en préparation. Tournage prévu pour le printemps 2027. On a appris hier qui incarnerait Louis de Funès.
Et c'est l'acteur Pierre Lottin qui a été révélé dans la saga des Tuches. Depuis, tout va bien pour Pierre Lottin, puisque cette année, il a reçu le César du meilleur second rôle pour sa performance dans L'étranger, le film de François Ozon. Il aura donc le privilège de jouer Louis de Funès, un sacré défi, puisque de Funès, c'est beaucoup plus qu'un acteur, c'est un monument du cinéma populaire.
Un immense acteur pour qui rien n'a été facile, en fait.
Et oui, puisque Louis de Funès a patienté très longtemps avant de connaître le succès. Il est né en 1914 dans une famille modeste de la région parisienne. Et pour gagner sa vie, eh bien, il va faire des petits boulots complètement improbables. Louis de Funès, il a été fourreur, décorateur, comptable, mais surtout pianiste. Pianiste dans un cabaret de jazz. Et c'est pendant ses concerts de jazz qu'il va se mettre à faire ses grimaces et ses mimiques qui feront plus tard la marque de son style.
Quand est-ce que commence sa carrière à proprement parler dans le cinéma ?
Tard. Son premier film, c'est en 1946 et il a 32 ans. Ce film, ça s'appelait La Tentation de Barbizon. Alors, il avait un tout petit rôle. Il jouait le rôle d'un portier avec seulement deux répliques en 46 secondes d'apparition. Et il va devoir attendre presque 20 ans pour devenir une star. Il explose dans Le Gendarme de Saint-Tropez en 1964 et il a 50 ans. Alors le film marche très très bien, tellement bien qu'il va connaître 5 suites. À partir de là, ça ne s'arrêtera plus. De Funès devient l'acteur comique numéro 1.
Et pourtant, il n'avait pas un caractère facile.
Ah non, pas du tout. Il était connu pour être désagréable et surtout pour être très capricieux et de mauvaise humeur. Par exemple, il était obsédé par ses yeux bleus. C'est-à-dire qu'il exigeait que la lumière des tournages soit réglée en fonction de la couleur de ses yeux. Pourquoi ? Eh bien, pour que ça ressorte un maximum à l'écran. C'était une vraie diva.
Et il était aussi assez radin.
Eh oui, il était radin. Il faisait tout pour dépenser le moins possible. Quand il payait un taxi, il ne payait que par chèque en faisant une belle et grosse signature. Pourquoi ? Eh bien, pour que les chauffeurs préfèrent garder le chèque comme autographe au lieu de l'encaisser. Dans son jardin, Louis de Funès avait aussi enterré de l'or. Et pendant les événements... Et pendant les événements de mai 68, il a eu tellement peur des manifestants qu'il avait envoyé quelqu'un déterrer son or pour qu'on aille le planquer ailleurs.
Il est l'or, monseigneur. Louis de Funès, c'est surtout une carrière exceptionnelle.
Mais oui, avec un nombre délirant de succès, Apolline. Il a tourné 145 films. 39 de ses films seulement n'ont pas atteint le million d'entrées. Et au total, il a réuni 270 millions de spectateurs au cinéma. Avec Titanic en 1998, c'est un de ses plus grands films, La Grande Vadrouille, qui détenait le record du box-office français avec 17 millions de spectateurs. D'après un sondage IFOP de janvier 2025, La Grande Vadrouille est aujourd'hui encore la comédie préférée des Français.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. On part au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission avec vos messages, Mathieu.
Oui, beaucoup de messages ce matin et vous revenez à nouveau sur la candidature de Marine Le Pen, candidate condamnée. Et on a parlé un peu plus tôt de ces casseroles, de ces manifestants en marge de son déplacement dans la Sarthe. Ralph nous écrit « J'ai, par le passé, souvent voté Front National sans arrière-pensée raciste. Je suis moi-même pas français d'origine. C'était uniquement pour la sécurité et le côté régalien. Mais là, franchement, une dame qui a un casier, qui se présenterait dans tous les cas, même si maintenant ils sont plus alignés avec ce que je pense, je n'aurais pas voté pour elle. Elle devrait naturellement se retirer de la politique et laisser la place à un remplaçant. » Ludo nous écrit « C'est marrant, elle va faire la même campagne que François Fillon. Christian, lui, nous dit elle s'entête. Elle veut faire croire qu'elle est innocente avec ce pourvoi en cassation, alors que le procès l'a montré comme principale responsable. Faut-il croire qu'elle n'a tout simplement pas confiance en Jordan Bardella ? Voilà ce que pense Christian. Il l'a écrit sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis juste après, le ministre de l'Éducation nationale sera mon invité sur RMC, Édouard Geffray. Le métier d'enseignant séduit de nouveau. Voilà ce qu'il vient nous dire, en tout cas ce qu'il défendra. Il va nous parler des résultats de ces concours d'enseignants. Y aura-t-il un professeur devant chaque élève à la rentrée ? Réponse donc à 7h40. D'ailleurs, si vous êtes prof, si vous êtes parent, n'hésitez pas à vous nous appeler au 3216 pour venir interpeller le ministre. Notez également qu'à 7h50, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot, puisqu'on est jeudi. Elle s'inquiète pour ces nouveaux réfugiés climatiques que la France semble découvrir. Et puis notez dès à présent qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera Olivier Faure. Il est 7h27, à tout de suite pour la météo et le journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Notre maison brûle et notre adaptation pourrait être bien meilleure. En pleine canicule, des scientifiques fustigent le manque d'action du gouvernement pour nous préparer au climat du futur. Humiliation, attouchement et insultes, les faits rapportés ce matin par la contrôleur des prisons qui épingle les conditions de détention dans l'établissement de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. Et puis un match immanquable sur RMC à 20h, France-Maroc, quart de finale de la Coupe du Monde. Les Marocains, en pleine forme, rêvent de faire tomber les favoris français.
Le Haut Conseil pour le climat alerte le gouvernement ce matin. Nous ne sommes pas prêts à affronter les futures canicules.
Et peut-être l'exécutif écoute-t-il ses scientifiques un peu plus quand, comme aujourd'hui, on frôle encore par endroits la barre des 40 degrés. Troisième canicule en moins de 2 mois. Bérangère Bocquillon, ce rapport annuel peut se résumer en une phrase. Contre le dérèglement climatique, l'État n'en fait pas assez.
Les émissions de CO2 en France ont baissé de 2% en 2025. Ça pourrait être une bonne nouvelle, mais cette baisse devrait être 2 fois plus forte pour respecter l'accord de Paris de 2015. D'ailleurs, les investissements pour décarboner le pays ne sont pas à la hauteur non plus. Au lieu d'être doublés, comme les experts le préconisent, ils ont baissé de 5% l'an dernier. Sans compter que les mesures pour s'adapter aux fortes chaleurs sont insuffisantes. Jean-François Soussana préside le Haut Conseil.
L'adaptation, ce n'est pas que la gestion de crise. L'adaptation, c'est structurel dans un contexte où la fréquence de ces canicules va être multipliée par 5 en 2050 et par 10 en 2100. Avoir 10 fois plus de canicules, c'est à peu près intolérable. On ne peut pas avoir une partie de la population qui est exposée à des températures extraordinairement élevées dans des logements, par exemple sous les toits ou des choses comme ça.
Le Haut Conseil recommande d'interdire à la location les logements les plus exposés à la chaleur et de rafraîchir les écoles, les universités, les hôpitaux grâce à des pompes à chaleur réversibles.
Et s'il fallait une preuve de plus, la SNCF est encore contrainte d'annuler des trains à cause de la canicule. Aujourd'hui, un tiers des rames Paris-Clermont, Paris-Limoges, Toulouse et Bordeaux-Marseille sont concernés, ainsi que quelques TGV également impactés. Autre conséquence concrète, les incendies. Ça continue de brûler dans la Drôme, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Et puis, ce ouf de soulagement dans le Cher, près de Bourges, où un incendie se rapprochait dangereusement d'une usine d'armement classée Seveso. Il a provoquer un temps l'évacuation en urgence d'une centaine d'habitants, Victor Girard.
Marine, assistante maternelle, garde tranquillement des enfants hier lorsque l'incendie se déclare à proximité de son lieu de travail.
Ça a été assez vite, vers 16h30, j'ai vu qu'il y avait le feu au bout de la rue et on a été très vite évacués à la salle des fêtes.
Une évacuation express aux côtés d'une centaine d'autres habitants de Mortomier car les flammes se propagent rapidement jusqu'à se rapprocher dangereusement d'un site industriel d'armement de l'entreprise KNDS.
C'est un site où il y a des équipements militaires, donc il peut y avoir des risques d'explosion.
Explique le maire de la commune, Guillaume Porcher. Les 125 sapeurs-pompiers appuyés par 2 hélicoptères bombardiers d'eau parviennent finalement à maîtriser le feu près du site sensible dans la soirée.
Ça a été quand même un gros soulagement. À la vitesse où il s'est propagé, il sera arrivé 40 minutes après. La finalité aurait peut-être été tout autre. Un feu d'une ampleur comme ça. Moi, depuis que je suis à Mortomier, c'est la première fois que ça arrive. Je suis là depuis 14 ans.
L'élu qui salue aussi la solidarité dont sa commune d'environ 800 habitants a fait preuve.
Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas rassurés, qui avaient peur. Tout le monde a mis un petit peu la main à la pâte. On sait pourquoi on habite dans un petit village. C'est que on sent qu'il y a de la solidarité chez les administrés. Ça, c'est agréable à voir.
Un nouvel exercice d'évacuation doit prochainement être organisé avec les habitants situés à proximité de cette usine d'armement.
Victor Girard pour RMC. Il est 7h33. On en vient à cet état des lieux accablant à la prison de Condé-sur-Sarthe. Établissement de haute sécurité, vous le savez, érigé en modèle par Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Eh bien, la contrôleur des prisons l'a arpenté pendant plusieurs jours, Romain Hougues. Et le rapport qu'elle rend public ce matin pointe plusieurs dérives.
Oui, de nombreuses dérives constatées par la contrôleure générale lors d'une visite sur place du 4 au 7 mai dernier. Dans le détail, les fouilles sont notamment pointées du doigt, décrites comme humiliantes, brutales, donnant parfois lieu à des attouchements au niveau des fesses et des parties génitales des détenus. Autre pratique dénoncée par la contrôleure générale, des surveillants qui, dès leur prise de poste à 7 heures du matin ou au beau milieu de la nuit, hurlent dans les coursives, insultent les prisonniers, les réveillent volontairement en allumant la lumière des cellules, en donnant des coups de pied dans la porte, des surveillants cagoulés, impossibles à identifier et donc épris d'un sentiment d'impunité, précise encore le rapport. Dans une lettre, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, répond à ces accusations, affirmant qu'aucun recours n'a été déposé pour des conditions indignes de détention, aucune plainte, aucun référé liberté, bref, rien, selon le garde des Sceaux, qui ne permette de constater une atteinte avérée aux droits fondamentaux des personnes détenues à Condé-sur-Sarthe.
Sarthe. Les précisions de Romain Houck pour RMC. On vous parlait hier de cet animateur périscolaire parisien relaxé des accusations d'agression sexuelle portées par 9 enfants de maternelle. Sachez qu'hier, le parquet de Paris a fait appel de cette décision. À l'étranger, les États-Unis pilonnent l'Iran pour le deuxième jour consécutif. 90 cibles touchées ces dernières heures selon l'armée américaine. Premier bilan, au moins 3 morts selon les autorités de Téhéran. Téhéran qui a riposté en visant ses voisins et alliés de Washington, le Koweït et Bahreïn. Il est 7h35 sur RMC et c'est le jour J pour nos Bleus.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Jour de quart de finale de Coupe du Monde. Coup d'envoi 22h sur RMC pour ce France-Maroc. Remake de la demi-finale du Mondial 2022. Les Bleus l'avaient à l'époque emporté 2-0. Mais Nicolas Pelletier, envoyé spécial de RMC aux États-Unis. Entre-temps, cette équipe marocaine a bien grandi.
Oui, une progression spectaculaire. En moins de 4 ans, les Lions de l'Atlas ont gagné 16 places au classement FIFA. Le sélectionneur marocain, Mohamed Ouabi.
Par rapport à il y a 4 ans, que le Maroc est en pleine évolution, ce sont deux équipes qui arrivent peut-être encore meilleures. Et c'est tout à fait normal, parce que ce sont deux fédérations qui travaillent très très bien, deux pays qui travaillent très très bien.
Des investissements hors normes dans le Royaume, une formation qui tourne à plein régime et surtout une équipe nationale où se mêlent jeunes talents et expérience. Pour Abderrahmane Ichi, journaliste à C-Sport Maroc, les Lions de l'Atlas ont leur avenir en main.
C'est à nous aujourd'hui de confirmer face à la France. Ce n'est pas juste de dire que le regard a changé, mais il faut le confirmer. Le Maroc peut vraiment faire tomber cette équipe de France.
Cette équipe nationale qui tourne bien rend surtout fiers les supporters marocains.
Avant sortir des phases de poule, c'était un exploit. Aujourd'hui, on se dit pourquoi pas battre la France.
On sent que tactiquement on est plus fort, on est plus solide. On croit à l'exploit et on est tous derrière les Lions.
Invaincu depuis janvier 2024, le Maroc rêve grand, très grand. Battre la France ce soir serait la parfaite illustration de la progression du football marocain.
Et puis un mot du Tour de France, 6e étape et les choses sérieuses qui commencent. Le col du Tourmalet, notamment au programme de cette étape de 186 km au départ de Pau.
Et puis le Quintet, c'est sur l'hippodrome d'Anguin.
Départ à 20h15, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 3, Kingslayer Pellini. L'outsider, c'est le numéro 14, Champouche. Le 3 et le 14.
C'était le journal de Victor Pourchet, il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
La QV 2026 du concours d'enseignants dévoilée ce matin. Combien de candidats retenus? Le métier de prof fait-il de nouveau rêver? Bonjour Edouard Geffray.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Dans un instant, vous nous dévoilerez les chiffres du recrutement des profs pour 2026. Est-ce qu'il y aura cette fois-ci un prof devant chaque élève dans les classes? Vous allez nous le dire dans moins de 3 minutes. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, appelez-nous au 3216. Vous êtes peut-être prof ou parent. Est-ce que justement le métier de prof est encore rêvé? N'hésitez pas à venir interpeller le ministre en direct sur RMC, 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 sur RMC. Et si le métier de prof faisait à nouveau rêver? C'est ce qui ressort des chiffres du concours de prof que vous nous dévoyez ce matin en exclusivité sur RMC. Edouard Geffray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Retour en grâce, les résultats du concours des professeurs cette année montrent qu'il y a eu davantage de candidats. Et combien d'admis?
Alors, il y a eu 24 000 admis contre 16 000 l'année dernière. Il y avait plus de place au concours. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'on avait 40% de place en plus, on a eu 49% de lauréats en plus. Donc pour la première fois, je vous donne un exemple, les concours de recrutement de professeurs des écoles de Créteil et de Mayotte, pour la première fois depuis des années, on fait le plein cette année. On est à 100% dans nos concours Créteil-Mayotte, là où on était à 90, 85, 92. Donc c'est une bonne nouvelle, et ça veut dire qu'on reprend des couleurs.
C'est une bonne nouvelle pour le métier de prof, c'est une bonne nouvelle pour les élèves. Est-ce que vous pouvez nous affirmer ce matin, Edouard Geffray, qu'il y aura bel et bien un prof devant chaque élève à la rentrée? C'est devenu presque un marronnier, comme on dit dans notre métier. C'est-à-dire que chaque année, désormais, c'est cette angoisse des parents de se dire que bah, peut-être qu'il n'y aura pas suffisamment de profs pour faire face aux élèves. Est-ce qu'à la rentrée, oui ou non, il y aura assez de profs?
Alors, il y aura assez de professeurs pour le système éducatif, voilà. Après ça, c'est toujours pareil, garantir que tel ou tel professeur n'est pas absent et bien remplacé dans les deux heures, etc. Ce serait mentir que de le dire. Mais en tout cas, nous aurons assez de professeurs cette année.
Alors, il y a
et
eu
notamment en sciences.
Plus de candidats et plus d'admis, puisque vous aviez ouvert à davantage de places. Est-ce que ça veut aussi dire que le concours a été un peu bradé?
Ah non, alors justement, la bonne nouvelle, c'est que non seulement on a plus d'ennemis, mais que globalement, les moyennes obtenues, quasiment dans toutes les épreuves, ont augmenté. Et vous voyez, si je vous prends par exemple les mathématiques ont été à 74% de satisfaction l'année dernière, donc on avait 25% de postes non pourvus, on est remonté à 93%. Physique, pareil, 74-98. Donc, on a quand même des bonnes nouvelles et avec des moyennes qui ont globalement augmenté.
Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire que les modalités du concours ont changé? Est-ce que la rémunération? Qu'est-ce qui fait qu'à nouveau c'est attractif?
Alors, comme vous le savez, donc on a deux concours qui est ouvert cette année. Un en L3, en fin de licence 3, un en fin de master 2. Les deux ont été donc pourvus dans des conditions très satisfaisantes. Ce qui est intéressant, c'est que le nouveau concours en fin de L3 attire. Puisque nos lauréats vont faire leur master en étant rémunérés. 1 400 € net la première année en M1, 1 800 € net en M2. Et ça, ça attire. Et en fait, ça rétroagit sur l'ensemble de la boucle. Puis quand on regarde dans Parcoursup, on a créé cette année des licences de professeurs à des écoles qui vont donc préparer nos étudiants à passer ce concours de L3. Et on a eu 10 candidats pour une place.
10 candidats pour une place. Ça veut dire que dès la terminale, vous avez eu des candidats, oui, en fait, qui sont déjà en train d'avoir.
Absolument.
De dire qu'ils ont envie de devenir prof.
En moyenne, 10 vœux pour une place.
Alors, il y a encore quand même, visiblement, quelques complications ou dysfonctionnements. C'est ce que vous vouliez dire d'ailleurs, je crois. Ronnie, vous êtes en direct avec nous des Deux-Sèvres. Vous êtes à Niort. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et
bonjour,
vous êtes enseignante sans classe depuis 5 ans. Alors, on parle des élèves qui n'ont pas de prof, mais vous êtes une prof sans élève.
Alors, je suis un prof. Mais oui, en effet, là je le dis avec le sourire, mais c'est pas vraiment le cas. Moi je suis enseignant donc titulaire, j'ai eu mon concours il y a une dizaine d'années.
Très bien.
Et à la suite des naissances de mes enfants, je me suis mis en disponibilité. Les enfants ayant grandi, j'ai souhaité réintégrer l'éducation nationale depuis maintenant 3 ans, mais ouais, chaque année j'ai porte close. C'est-à-dire que mon département auquel j'appartiens me laisse quitter le département, mais mon département d'accueil ne souhaite pas me voir intégrer ses effectifs.
Mais quels sont les arguments qui vous sont opposés?
C'est là où c'est un peu compliqué. On n'a pas d'arguments qui nous sont avancés. La confidentialité, le manque d'interlocuteurs, on n'a pas d'informations.
Mais vous êtes rémunéré, Ronnie?
Ah ben non,
du tout. C'est ça, donc là vous êtes sorti, vous étiez sorti, hein, vous étiez en disponibilité, donc vous étiez sorti des effectifs.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des réponses à apporter sur ce point-là ou c'est un dossier trop complexe pour vous?
En l'occurrence, si ça vous dérange pas, je prendrai juste le nom de votre interlocuteur pour regarder cette situation.
Ronnie, si ça vous va, on fait ça?
Oui, ça me va, ouais, très bien. Ouais.
Effectivement, ça c'est une personne en fait qui est sortie du sémicatif. Il est ce qu'on appelle en disponibilité, c'est-à-dire qu'il a demandé à être, si je puis dire, en parenthèse et entre parenthèses, et il revient. Et donc parfois il peut y avoir des petits blocages, mais ça pour le coup, je vais regarder. C'est un peu dommage de se passer de quelqu'un.
Exactement. Et ensuite c'est la question effectivement de si on sort, comment est-ce qu'on fait pour revenir. Un mot aussi du bac, ouais. Édouard Geffray, 85,5% de taux de réussite. On l'a appris hier. C'est sensiblement la même chose qu'il y a un an. Ça veut dire que vous aviez dit normalement que ça devait être plus dur, ça l'a pas été.
Alors deux choses. D'abord, ça baisse un petit peu.
Légèrement. Là, vous nous parlez de l'épaisseur du trait quand même.
Ouais, 0,5%, mais c'est la première fois depuis au moins 5 ans que ça baisse. Donc je le signale quand même.
C'est quand même marrant, pardon, mais c'est la première fois qu'un ministre de l'Éducation se félicite que ça baisse. C'est-à-dire que ce soit plus exigeant.
Non, je ne m'en réjouis pas, mais je le constate.
D'accord.
Et deuxième chose, on avait effectivement durci les règles, notamment sur ce qu'on appelle les points jurés. C'est-à-dire, vous savez, ce système qui faisait qu'on rattrapait une personne quand elle avait 7,5 pour l'amener à 8, et puis après on la rattrape encore pour l'amener à 10. Ça, on y avait mis fin, donc très clairement, il y a un effet. Ensuite, il y avait effectivement, moi je souhaitais un durcissement des consignes, notamment sur le niveau d'expression. Voilà, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe. Il y a eu un certain nombre d'articles qui ont montré que c'était, j'allais dire, plus ou moins, que ça avait plus ou moins imprégné les esprits, et ça ne m'étonne pas, parce que ce sont des enjeux culturels de long terme, mais ce n'est pas sûr ce qu'on va retravailler calmement, quand on aura tous les résultats.
Je voudrais également que l'on puisse accueillir Hélène, qui nous appelle du Canet. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Vous êtes infirmière, et vous vouliez parler de la question du recrutement des étudiants futurs profs.
Oui, parce que c'est le cas de ma fille, donc qui est en master 2, donc elle a passé le concours ouvert au L3. Comme elle est obligée de travailler à côté parce qu'il n'y a pas de rémunération sur les études, elle n'a pas réussi son concours et son année est un peu compliquée à gérer. Et il se trouve que sur Nantes en master 2, il n'y a plus l'alternance, peut-être du nouveau programme, alors que cette alternance est proposée quand même sur d'autres facultés. Donc il y a une inégalité dans le recrutement.
Une alternance pour devenir prof.
Devenir professeur des écoles.
Cette inégalité territoriale, Édouard Geffray, vous en aviez conscience ?
Alors oui, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris la situation parce que madame dit que ça fait à la fois un master mais 40 ans master, donc enfin juste qu'on regarde ça de près. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que selon les universités, vous avez plus ou moins d'abord de postes ouverts au master, hein, c'est normal. Et mécaniquement, il peut y avoir ou pas de l'alternance. Mais ça, c'est une question un peu d'opportunité
locale. Vous l'encouragez, l'alternance ? C'est une manière de.
En réalité, bientôt, on n'en aura plus besoin. Parce que comme on recrute les étudiants en L3, ils vont directement être en fait dans un système de quasi-alternance pendant leur master, puisqu'ils vont être rémunérés et qu'ils vont être en
prestation. Et que ce sera un master déjà professionnalisant.
Voilà. Donc là, en fait, on est sur les élèves qui sont un peu dans une situation de transition. Mais on va regarder un petit peu ça de près. Mais en tout cas, je ne suis pas forcément surpris qu'effectivement, il y ait ce phénomène.
On a parlé à l'instant de la demande que vous aviez formulée d'être plus exigeant sur la syntaxe, l'expression, l'orthographe. Il y a une autre demande qui a été formulée, qui est de demander aux établissements scolaires d'organiser une cérémonie pour commémorer l'armistice du 11 novembre. Semble-t-il, un certain nombre de professeurs disent que c'est une militarisation de l'école. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Mais je vois pas ce qu'il y a de militarisation à célébrer la journée nationale de la victoire et de la paix.
C'est la journée de la victoire et de la paix.
Et c'est la victoire, c'est la journée au cours desquelles on rend hommage à tous les morts pour la France. Vous savez, moi je pense que c'est important de savoir où on habite. On a une histoire commune qui dépasse les histoires singulières des différents Français. On a une histoire commune qui est un legs et qu'on se doit de transmettre si on veut construire un destin commun. Et ce que le président de la République a décidé, effectivement, ça a été dit il y a déjà plusieurs mois, c'est qu'il souhaitait que le 11 novembre puisse aussi être commémoré dans les établissements. Alors pas le 11, ce sera le 10 ou le 12, sur un jour ouvrable. Mais parce que simplement, il faut rappeler aux élèves d'où ils viennent, collectivement, d'où nous venons collectivement, pour savoir où nous allons collectivement.
Donc vous ne céderez pas là-dessus ?
Non, mais parce qu'il n'y a pas de raison ni de céder ni de quoi que ce soit. Il faut là aussi prendre les choses avec sérénité. Une fois encore, on a une histoire commune qui dépasse l'histoire singulière de chacun d'entre nous. On soit arrivé en France il y a deux jours, que nos ancêtres aient fait la Première Guerre mondiale, c'est pareil. C'est notre legs commun parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont battus pour qu'on soit libre. Leur rendre hommage, s'en souvenir et savoir le prix de la liberté, c'est pas de la militarisation, c'est du bon sens.
Merci beaucoup, Édouard Geffray, d'avoir répondu à mes questions. Ministre de l'Éducation nationale, et vous nous dites donc en exclusivité sur RMC ce matin que le nombre de recrutements est en hausse cette année au concours d'enseignement, plus.
Plus 50%.
Plus 50%. Il est 7h50 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, c'est la voix de gauche. C'est jeudi, c'est Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Vous vouliez revenir sur les incendies et la canicule qui continue de frapper en France, des maisons brûlées, des habitants qui ne peuvent plus rester chez eux à cause de la chaleur. Pour vous, la France découvre ses premiers réfugiés climatiques.
Oui, le mot est fort, Apolline, et on pensait peut-être que c'était réservé aux pays du Sud. Et donc la France doit se réveiller avec une grosse gueule de bois, mais elle doit se réveiller.
Vous nous le dans un instant, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du bonus, Mathieu, avec un nouveau YouTube ce matin.
Et ça s'appelle Street of Dreams, la rue des rêves. Le groupe a tourné un clip déjà à Mexico sur le toit d'un vieux bus scolaire devant des fans. La pluie qui s'abat sur le tournage, l'orage qui fait sauter le générateur et le groupe qui trouve refuge chez l'habitant. C'est presque un court-métrage. Street of Dreams, c'est surtout le premier titre d'un album annoncé, attendu pour la fin de l'année. Le premier vrai album des Irlandais depuis 2017, U2, est bien de retour. Alors je dis premier vrai album et retour, mais les quatre Irlandais sont loin de la retraite. On avait parlé ici même du mini-album très politique sorti en février. Days of Ash, il était question d'Ukraine, de Gaza, de Trump. Ce prochain album attendu pour la fin de l'année devrait célébrer les 50 ans. Rien que ça, ça ne rajeunit pas. Les 50 ans de carrière des quatre Irlandais de U2.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est jeudi, c'est la voix de gauche, c'est Cécile Duflo. Bonjour Cécile. Bonjour. En plus des canicules, le sud de la France connaît un nombre record d'incendies et conséquence, certains habitants sont obligés de quitter leur domicile. Pour vous, la France découvre ses premiers réfugiés climatiques.
Oui, je crois que c'est de ça dont il faut parler. Alors, il y a deux chiffres très marquants. D'abord, ça vient de sortir le mois de juin et celui qui est le mois le plus chaud de notre histoire. Copernicus l'a révélé, c'est pas une grande surprise. Mais surtout, ces derniers jours, il y a 7800 hectares qui sont partis en fumée en France. C'est presque deux fois plus que tout le mois de juillet de l'an dernier. C'est les trois quarts de Paris, et pour qu'on visualise, c'est 11 000 terrains de foot en quelques jours. Et c'est des millions d'arbres qui ont brûlé, mais aussi des millions d'animaux, et plus de 13 000 personnes évacuées. 13 000 personnes évacuées, c'est énorme, c'est toute la ville de Bayeux.
C'est toute la ville de Bayeux. Comment ça se passe d'ailleurs, ces évacuations?
Ça se passe de manière très brutale, hein. Il y a eu des témoignages ici sur RMC, on les a entendus. Les gendarmes passent devant chez vous, ils vous disent qu'il faut partir, que l'évacuation est immédiate, vous prenez vos affaires, vos animaux, et vous devez partir le plus rapidement possible. Ma famille a vécu en 2022 dans les Landes, donc quand c'est très théorique, on imagine. Quand c'est réel, je peux vous dire que c'est extrêmement brutal. Partir avec ce qu'on porte sur soi, quelques papiers, et ne pas savoir si quand on reviendra, on aura encore sa maison, c'est d'une violence assez grande.
Réfugié climatique, est-ce que vraiment le mot n'est pas trop fort?
Oui, réfugié climatique, parce que la cause de cette situation, c'est-à-dire l'emballement des feux et les méga-feux, j'espère que nous n'aurons pas à en vivre cet été, c'est clairement, de façon très documentée, lié au dérèglement climatique. Et la seule réponse à ça, c'est la solidarité. C'est vraiment la solidarité. Parce qu'on ne peut pas reloger 13 000 personnes dans des gymnases, donc il faut que des gens soient bénévoles pour accueillir des personnes, mais aussi des animaux, et notamment du bétail. C'est comme ça que ça s'est passé dans la Drôme. Il y a eu des formulaires qui ont été mis en ligne en disant, voilà, si vous pouvez accueillir des gens, dites-nous combien de personnes, combien d'animaux. C'est vraiment à ça aussi qu'il faut se préparer, c'est-à-dire à l'accueil des réfugiés. Et je le dis de manière assez grave, c'est ça qui est devant nous. Et donc là, on le fait de manière bricolée. Mais en 2022, pendant les méga-feux des Landes, c'était 36 000 personnes. 36 000 personnes, c'est la plus grosse évacuation de population civile depuis la Seconde Guerre mondiale. On a un peu de mal à réaliser, je pense qu'on est encore dans le déni, mais il faut absolument s'y préparer.
La semaine dernière, vous nous parliez d'adaptation. Là, vous parlez de réfugiés climatiques, d'une forme d'exode en quelque sorte. On a l'impression que c'est de pire en pire chaque semaine.
En fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est que ça ne va pas s'arranger. Il faut ouvrir un peu les yeux. Et on l'a entendu ce matin aussi sur RMC, le Haut Conseil pour le Climat dit des chiffres qui sont marquants. D'abord, la priorité, ça devrait être de s'attaquer au dérèglement climatique. Et on recule. On recule. Les chiffres de baisse des émissions dans les transports, le bâtiment et l'agriculture, on est passé de moins 4% à moins 0,4%, alors que c'est les secteurs qui devraient faire le plus d'efforts. Et puis surtout, c'est écrit en toutes lettres, la réponse de l'État demeure structurellement insuffisante sur le volet de l'adaptation juste. Donc voilà, c'est écrit, c'est documenté, on l'a sous les yeux. Il faut maintenant une action politique. Et c'est pour ça que l'affaire du siècle soutient une initiative de sinistrés du dérèglement climatique pour rendre visible. Parce que là, c'est des aventures vécues individuellement. Chacun a sa maison, ses affaires. Donc il faut aller sur le site www.secomptezpourpeser.org où tous les Français victimes du changement climatique pourront témoigner. Comme ça, on verra ce qui se passe réellement en France et que ce n'est pas des problèmes individuels vécus chacun de son côté de façon très brutale. C'est un problème collectif dont nous devons collectivement prendre en charge les solutions.
La voix de gauche, Cécile Duflot. Merci Cécile. Demain, place au débat. Voix de droite et voix de gauche, vous débattrez avec Charles Consigny. Il est 7h56. Restez bien avec nous. Dans un instant, le journal de 8h à la une. France-Maroc, ce soir, quart de finale de la Coupe du Monde. Les supporters français sont déjà à fond, vous l'entendrez. La météo, Géraldine nous le dira, 72 départements sont en vigilance orange, canicule. Et puis juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, les vacances coûtent plus cher cette année?
Oui, mais on sera moins nombreux à partir et on partira moins longtemps.
Vous nous le dites dans un instant, 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.